affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet d'environnement majeur, les plastiques. Ces matériaux sont nés il y a environ un siècle de la découverte des polymères synthétiques. Ils présentent beaucoup de qualités et se prêtent à de nombreuses utilisations. Conséquence, leur consommation a explosé depuis les années 50. Seulement voilà, les plastiques se dégradent très lentement et ils ont envahi la planète jusqu'aux régions les plus reculées, de la calotte glaciaire aux fosses océaniques. On les retrouve même sous forme de microparticules dans l'organisme humain. L'Académie des sciences s'est penchée sur cette problématique préoccupante. Le 16 mars dernier, elle a publié un rapport sur les plastiques dans l'environnement avec un état des lieux et des préconisations. Nous recevons donc deux de ses membres pour en parler, Jean-Claude Duplessis et Ludwig Leibler. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors pourquoi l'Académie des sciences s'est-elle saisie de ce sujet des plastiques ?
Il était important, vous savez, que l'Académie des sciences a un comité spécial qui s'intitule Comité des sciences de l'environnement et qui justement regarde les grands problèmes scientifiques qui affectent l'environnement. Et il était important de regarder les plastiques parce que, un, on en parle beaucoup dans les journaux et les émissions de radio, mais on laisse croire qu'on peut traiter facilement le problème. J'ai vu passer des articles disant « tout sera résolu, on va aller piocher, ramasser tous les bouts de plastique qui traînent dans l'océan avec un bateau à voile ». Et il est en fait évident que les gens regardent le problème de façon extrêmement superficielle. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'ils regardent dans l'océan, eh bien, ils voient les plastiques qui sont à la surface. S'ils se promènent en bateau à voile, ce qui est très agréable, et qu'ils traînent un filet à papillons derrière eux, ils vont ramasser des morceaux de plastique, ils vont pouvoir les étudier, ce sera du très bon travail, mais ils ne vont voir qu'une fraction infime des plastiques qui ont été rejetés dans l'océan. Les évaluations les plus récentes disent en gros que quand on regarde les plastiques à la surface de la mer, on regarde 1% des plastiques rejetés dans l'océan. Et les 99% qui restent, eh ben on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas dans quelles conditions ils sont stockés quelque part dans l'océan et on ne sait absolument pas quel va être leur rôle et comment ils vont affecter notamment la vie marine. Bon, la situation n'est pas mieux si vous regardez par exemple dans les sols, car une partie des plastiques est rejetée, bon, tout simplement comme on peut dans des décharges qui ne sont pas vraiment bien entretenus, les parties des plastiques partent, il y en a qui sont utilisées par ailleurs pour l'agriculture. Ensuite, souvent, ils sont enfouis dans le sol où on espère qu'ils vont se désagréger et une partie d'entre eux ne se désagrégera pas. Et tout ça va avoir comme conséquence une pollution notable de notre environnement. Bon, ben c'est ça que nous avons voulu regarder et je pense que Ludwig Leibler pourra nous dire quelques mots sur la durée de vie de ces déchets et la complexité de leur dégradation.
Oui, justement, Jean-Claude Duplessis, vous nous avez bien expliqué que Le plus souvent, en fait, les plastiques sont des microplastiques dans l'environnement. Et Ludwig Leibler, pouvez-vous nous dire à quel point le temps est un facteur déterminant pour traiter cette problématique? Nous sommes sur des temps très longs.
Oui, oui, tout à fait. Enfin, pour la majorité des plastiques, notamment les plastiques qu'on utilise quotidiennement, notamment dans l'emballage, les polyéthylènes ou les polypropylènes et d'autres plastiques, c'est des plastiques qui se dégradent lentement, très lentement. Et en fait, il faut pas. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la dégradation. C'est-à-dire qu'ils sont additifiés justement pour qu'ils ne se dégradent pas. On sait qu'ils vieillissent, donc ils vieillissent. Et en même temps, ils se dégradent. Mais les parties qui se dégradent restent toujours assez grandes, suffisamment grandes. Donc on parle de microparticules, certains parlent de nanoparticules, suivant les dimensions des particules, et qui restent dans leur environnement. Ce que je voudrais souligner, que c'est pas une situation nouvelle. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est les polymères synthétiques qui ont à peu près 100 ans, comme vous avez dit. Mais les polymères naturels, les plastiques naturels, si on peut dire, c'est-à-dire la cellulose, la mucellulose qui est fabriquée par les plantes, les plantes se constituaient de ces polymères, ne se dégradaient pas non plus. Il restait dans l'environnement pendant des millions d'années, jusqu'au temps qu'il y avait des micro-organismes, des champignons, qui est arrivé à les intégrer dans leur métabolisme. Et donc, il arrivait à digérer, de manger ces plastiques et les transformer en l'eau et en oxyde carbonique. Et donc, ça a pris des millions d'années. Et là, maintenant, même encore, on trouve le pétrole, c'est le résultat un peu de cette dégradation, si vous voulez. Et donc, c'est des processus qui peuvent être très, très longtemps. Et pour les plastiques, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il n'y a pas de coupures de molécules, des choses qui peuvent faire de composés qui sont un peu nocifs. Donc, on parle de temps vraiment très long, pas toujours très connu, mais il y a des polymères que certains micro-organismes digèrent déjà. Et donc, on parle dans ce cas-là de polymères biodégradables, mais c'est pareil, c'est pas nécessairement une assimilation complète dans le métabolisme. Et donc, c'est un véritable problème. La durée de vie des plastiques dans l'environnement et les cycles auxquels ils sont soumis, ça peut être un problème.
Très long, ça veut dire combien de temps, par exemple?
C'est assez difficile de les dire, puisque les plastiques ont 100 ans. D'accord? Donc, on les trouve encore dans les sédiments. Et les plastiques très anciens, quand on coupe, donc on peut dire que certains plastiques restent certainement plus que 100 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils restent dans la même forme. C'est-à-dire qu'il y a les rayonnements de soleil, il y a l'oxydation, les molécules se dégradent, elles perdent leurs propriétés, ils vieillissent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont assimilés dans l'environnement.
Et pourquoi cela pose-t-il problème d'avoir ces molécules, même très petites, présentes dans l'environnement? Vous dites qu'elles ne sont pas assimilables.
Ça pose des problèmes dans l'environnement. Jean-Claude pourrait vous en parler davantage sur l'influence sur l'environnement marin. Mais ça pose des problèmes parce que dans l'océan, par exemple, il y a des plastiques qui flottent et qui couvrent la surface considérable, déjà. Il y a les microplastiques, dont la quantité on ne connaît pas très bien, mais qui ont à peu près la taille de plancton. Donc, ces petites particules peuvent transporter d'un endroit à l'autre des micro-organismes qui normalement ne seraient pas transportés, peuvent transporter la maladie, mais surtout aussi peuvent être ingérés par des poissons et les autres animaux qui les prendront pour le plancton, si je comprends bien. Jean-Claude pourra me corriger.
Non, c'est tout à fait ça. Si vous voulez, les particules qui traînent donc de dégradation des plastiques qui sont des petites particules qu'on appelle des microplastiques souvent ou des nanoplastiques encore les plus petits. Ces microplastiques, ils ont la taille de certains des éléments du plancton. Alors les zooplanctons qui a des systèmes qui leur permettent d'attraper des proies par exemple en envoyant des pseudopodes qui vont les entourer, puis ensuite ces pseudopodes vont digérer les éléments, eh bien ils croient, en tout cas leur réaction du plancton, c'est la même pour un microplastique ou pour une particule vivante qu'ils veulent assimiler. Alors quand c'est une particule vivante, bon, ben, c'est parfait, ils ont le sentiment tout compte fait d'avoir un bon bout de beefsteak, en modèle réduit, hein. Mais quand c'est du plastique, ils ont quelque chose qui ressemble à de la nourriture, mais qui n'en est pas. Et donc, ils se retrouvent à avoir, en fait, à occuper leur système digestif par des particules qui sont essentiellement impossibles à manger. Alors, ils vont être un peu chétifs, ils seront assimilés ensuite par les poissons qui vont les manger. Il y a toute une chaîne alimentaire, hein, qui part du micro, en fait, du phytoplancton, du micro-zooplancton, et puis ensuite aux zooplanctons plus grands pour arriver aux poissons. Et puis ensuite, les hommes vont attraper les poissons. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, les poissons contiennent des morceaux de plastique, et comme vous mangez du poisson de temps en temps, vous avez la chance de posséder maintenant quelques grammes de plastique dans votre organisme. Alors, à la limite, ce ne serait pas grave. Mais un des ennuis vient des plastiques encore plus petits, ces nanoplastiques, parce que eux, leur comportement, en gros, il est inconnu. Ce que l'on soupçonne, parce qu'il y a quelques données qui ont été acquises, c'est qu'ils vont être assimilés, rentrés dans les cellules, et ensuite, quel va être l'impact de ces nanoparticules de plastique qui sont capables de rentrer dans les cellules de l'organisme? Eh bien, on ne le connaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Au plan de la santé, il y a évidemment énormément d'études qui sont faites par des scientifiques extrêmement sérieux, mais ils en tombent sur une difficulté, c'est que quand vous avez un bout de plastique dans les mains, il n'a pas l'air d'être très toxique. Donc pour essayer de tester la toxicité des plastiques, ils ont l'habitude d'utiliser par certains poissons qui sont des animaux de laboratoire véritablement, et on les soumet à un environnement dans lequel les micro ou macro quantités de plastique sont quelquefois un million de fois supérieures à ce qu'elles sont dans la nature. Donc la conclusion de ces études, c'est de dire, oui, les plastiques sont toxiques, certains déclenchent des réactions chez nos animaux de laboratoire pratiquement, on pense qu'ils sont cancérigènes, on pense qu'ils peuvent avoir tout un tas d'interférences avec le système hormonal. Donc, ce sont des produits dangereux. Mais là, c'est des produits dangereux à des concentrations un million de fois supérieures à ce qu'on trouve dans la nature. Et donc, est-ce qu'ils sont dangereux lorsqu'ils sont aux concentrations naturelles? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, en vertu du principe de précaution, on étiquette ces produits comme dangereux, mais en fait, on ne le sait pas s'ils sont dangereux. Et là, il y a donc tout un champ d'études qu'il est nécessaire de lancer de façon à ce que l'on puisse apporter une réponse raisonnable pour évaluer les possibilités. Il faut que l'on sache si ces produits sont cancérigènes, si ce sont des perturbateurs endocriniens, à partir de quelle concentration ils deviennent dangereux. Bon, tout ça, ce sont des études qu'il est indispensable de mener à bien et c'est un des points que nous avons soulevé dans le rapport.
Oui, cela fait vraiment partie de vos préconisations. Vous insistez beaucoup sur la nécessité de la recherche et le fait que nous avons finalement encore très peu de connaissances dans ce domaine-là. Il y a un autre domaine dans lequel vous demandez plus de recherche, c'est celui de la production peut-être d'autres types de plastique, d'autres types de polymères. En fait, est-ce que des alternatives sont possibles, soit avec d'autres matériaux, soit avec d'autres polymères ?
Oui, une autre de nos préconisations, c'est bien sûr de faire une analyse complète de ce qu'on appelle le cycle de vie des plastiques, c'est-à-dire comment on les fabrique, comment on les utilise, comment ensuite on s'en débarrasse lorsqu'on a fini de les utiliser. Et ce que nous recommandons, bien sûr, c'est de mettre en œuvre à grande échelle une économie circulaire pour faire en sorte que les plastiques soient mieux utilisés et ne soient pas perdus comme déchets non utilisable. Ludwig Leibler est certainement capable de vous expliquer toutes les possibilités qu'il y a dans ce domaine, donc je lui passe la parole.
Oui, Ludwig Leibler, par exemple, la question du tri est une question importante, mais elle n'est pas si simple.
Oui, effectivement. Mais pour répondre à la question justement des tris, La première question la première chose qu'il faut souligner vraiment, c'est que les polymères synthétiques, les plastiques, sont extrêmement utiles et qui sont indispensables dans la vie actuelle. Donc, il est absolument impensable de s'en passer. Donc, la raison, c'est que les polymères ont toujours accompagné les établissements de technologies nouvelles qui arrivaient. Les cinémas, les films étaient possibles grâce aux polymères, puisqu'il fallait la pellicule qui est le polymère et qui est le plastique. Les avions volent parce qu'on a du plastique. Tous les adhésifs, tous les colles sont des polymères, sans parler de l'ordinateur, de l'électronique et des objets, des emballages, qui a changé beaucoup de problèmes. Les emballages nous assurent la sécurité alimentaire, nous assurent beaucoup de choses. Il y a des emballages dont on pourrait se passer. Donc la première préconisation, avant même les tri, c'est l'usage raisonné de polymères.
Si ce n'est pas l'éradication, mais l'usage raisonné.
Voilà. Et donc une fois qu'on dit ça, on pourrait aussi se dire qu'on pourrait les réutiliser, effectivement, qu'on pourrait utiliser les déchets de plastique, comme on fait avec l'acier. Le 84% de l'acier, il faut distinguer recyclage et réutilisation. Donc l'acier, on réutilise dans les mêmes applications qu'il était utilisé avant, mais pour ça, il fallait beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations, beaucoup d'investissements, et l'organisation des filières de recueil de déchets en ferraille. Alors, donc, on pourrait se dire pourquoi on ne fera pas la même chose avec le plastique. Et c'est là où arrive votre question. Et comment faire et pourquoi c'est difficile? Mais il y a une deuxième difficulté, c'est que les différents polymères, les différents plastiques, ne sont pas miscibles. Et comme ils ne sont pas miscibles, donc, on obtient quelque chose qui est un mélange pas homogène, et du coup, avec les propriétés mécaniques d'usage qui sont dégradées. Donc, c'est pour ça qu'il faut trier. C'est pour ça qu'il y a ce label qui vous dit que ce plastique-là, c'est polyéthylène, celui-là, c'est polyéthylène terephthalate. Parce que, par exemple, si vous prenez les bouteilles de lait, et si vous mélangez la capsule avec la bouteille de lait dans le processus de fabrication de nouvelles bouteilles de lait, cette bouteille n'aura aucune tenue mécanique. Vous n'arriverez pas. Donc, il faut séparer la capsule de corps de bouteille qui sont faits de notre matériau. D'où la nécessité des tris pour répondre à votre... Évidemment, tout ça pose des difficultés logistiques, mais aussi scientifiques, c'est-à-dire comment faire pour qu'on puisse mélanger des polymères, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose qui s'appelle les compatibilisants, les molécules qui arriveront à rendre les propriétés mécaniques acceptables, etc. Et les industriels, ils ont déjà beaucoup de solutions et la recherche peut progresser dans ce domaine, mais ce sera toujours une difficulté.
Une des pistes intéressantes, c'est d'agir directement au niveau de la production et cette production ne cesse d'augmenter chaque année. Aujourd'hui, nous en sommes, vous le dites dans le rapport, à 350 millions de tonnes estimées. Quelles sont les opportunités dans ce domaine-là, peut-être une nouvelle façon de concevoir un produit sur la longue durée dès la production ?
Le fait qu'il y a autant de plastique qui est produit, c'est parce que elles sont utiles. Et en fait, la production de polymères, de plastique, double tous les 13 ans. Donc, c'est un terme qu'on connaît maintenant très bien, la croissance exponentielle, sauf quand il y a des crises financières, mais où ça se ralentit un tout petit peu. Et en fait, la raison, c'est que l'économie mondiale augmente et les pays en voie de développement ont besoin de plastique et donc c'est eux qui consomment plus et que la production mondiale augmente, la consommation augmente. Et donc, pour se rendre compte qu'est-ce que ça représente, chaque Européen consomme à peu près 70 à 100 kilos de plastique par an. Ce qui est énorme. Et en comparaison, en Chine, la consommation sera de l'ordre de 20 kilos par personne. Mais si la consommation augmente de 20 à 25 kilos par personne en Chine, évidemment, la consommation mondiale va croître. Donc, on va passer de 300 millions de tonnes à 800 millions de tonnes. Et comme un pourcentage important est rejeté dans la nature de façon sauvage, comme a souligné Jean-Claude Duplessis, tout ça, ça va se trouver, il y a beaucoup qui va se trouver dans l'environnement. Et ce qu'il faut réaliser, que c'est seulement 8% qui est recyclé ou réutilisé, d'accord, de 8 à 10%. Donc on se trouve avec cette masse de plastique. Je ne sais pas si dans les rapports, je ne me souviens plus si dans les rapports on dit, mais si on fait un film, si on changeait cette plastique à un film alimentaire, donc qui est très très fin, on pourrait emballer la terre avec la production annuelle de plastique. Donc c'est de forme, donc il y en a vraiment vraiment beaucoup. Donc et ceci pose un problème, ceci pose un problème sociétal et pose un problème pour les recherches et pour les techniciens. C'est-à-dire, effectivement, il faut concevoir des méthodes pour réduire la consommation ou la production d'objets qui sont mal conçus, qui se cassent rapidement et augmenter la durée de vie d'utilisation. Et pour les produits à l'usage unique ou à très faible usage, comme les emballages, imaginer de façon de les réutiliser et les recycler.
Nous avons beaucoup parlé de l'importance de la recherche, à la fois pour mesurer l'impact de ces plastiques sur l'environnement et sur les êtres vivants, mais aussi pour repenser peut-être sa production, son recyclage. En termes de réglementation, où en sommes-nous en lisant votre rapport? On a l'impression qu'il y a beaucoup de sujets ne sont pas encore traités de façon juridique.
C'est probablement pas totalement vrai, en ce sens qu'il y a un certain nombre de textes qui encadrent les plastiques, et en particulier, je dirais, le plus important pour nous, ça a été le fait que les Chinois ont dit que dorénavant, ils ne voulaient plus importer de plastique. Parce que pendant fort longtemps, on trouvait très agréable d'envoyer nos déchets plastiques dans des bateaux jusqu'en Chine, où les Chinois prétendaient, tout en se faisant payer, prétendaient qu'ils les recyclaient d'une façon ou d'une autre. En fait, c'était probablement en Chine plutôt une pollution nouvelle qui s'introduisait. Et donc, ils ont fermé purement et simplement leurs frontières aux importations de déchets plastiques. Alors, on s'est dit, c'est pas grave, on va changer de pays de sud-est asiatique, Mais malheureusement, le bon sens a prévalu et la plupart de ces pays ferment leurs frontières et n'acceptent plus les déchets plastiques, ce qui veut dire que nous allons avoir au niveau européen la charge de prendre en charge nos déchets, ce qui est normal et qui va nécessiter que l'on développe de grosses usines capables de traiter ces problèmes. Bon, ça donnera du travail aux chimistes, ça donnera, ce sera une occasion d'affiner les possibilités de maintenir l'environnement de façon aussi simple possible, et je pense que c'est une très bonne chose. Ceci étant, il y a déjà des réglementations qui existent même au niveau européen, et en particulier les constructeurs automobiles ont été prévenus que leurs plastiques doivent être pas dégradables, mais recyclables à peu près à 90%. Hein, Ludwig, tu me confirmeras ces chiffres, hein, c'est 90% de recyclables qui est exigé pour les voitures. Donc, on regarde le problème et c'est quelque chose qui, comme toujours dans les problèmes d'environnement, ne peut être que progressif. Mais il faut véritablement s'y mettre, et en particulier il y a un certain nombre de travaux qui peuvent être faits, de recherches qui peuvent être faites pour faciliter et rendre plus efficace, par exemple, le tri des plastiques lorsqu'ils seront collectés correctement, s'ils sont par exemple marqués d'une façon qu'ils puissent être automatiquement reconnus par des robots dans les centres de tri.
Et comment voyez-vous l'avenir, peut-être pour conclure chacun, si vous aviez un rêve dans ce domaine-là, quel serait-il de découverte, par exemple, ou de processus mis en place? Ludwig Leibler, peut-être?
Il y a beaucoup de rêves. Il y a un énorme progrès qui se fait à la fois au niveau des consciences de nous tous sur les problèmes qui existent. Ce problème, il n'est pas nouveau, il est traité par les industriels. La fin de vie des produits, il y a des réglementations, il y a un grand souci pour les produits industriels. Le grand rêve, ce serait que les gens qui sont maintenant conscients souvent de problèmes appliquent dans leur vie et que c'est un changement. Enfin, il y a des choses qui sont des changements de société qui doivent être profondes, repenser les types de consommation en intégrant les aspects de l'environnement, de sociétal, etc. Et on sait qu'avec cette croissance dont je parlais, on sait toujours que les problèmes resteront. Et donc un rêve, c'est à la fois les rêves de scientifiques et de citoyens. Il existe quelque chose, un polymère est fait à partir de petites briques qui s'appellent les monomères. D'accord. Et donc, quand on dégrade quelque chose vieilli, donc on coupe cette chaîne de polymères de façon un peu aléatoire. D'accord. Mais on peut les dépolymériser, c'est-à-dire de partir, d'arriver à des monomères qui est même à partir desquels on a fait la chaîne de polymères, et donc refaire à nouveau une chaîne de polymères. Et ce genre de processus s'appelle dépolymérisation ou le recyclage chimique. Eh bien, la thermodynamique, toute la science s'oppose à ce processus, parce que si on veut faire un polymère stable, on veut empêcher qu'il se décompose à ces parties-là. Donc le rêve, eh bien, il y a des méthodes, au moins pour certains polymères, où on peut dépolymériser relativement facilement, notamment en utilisant les enzymes et les méthodes. Il y a une société française absolument extraordinaire, une start-up qui s'appelle Carbios, qui a des enzymes qui sont très efficaces et qu'on pense qu'on pourrait aller faire. On peut faire aussi dans le cas de PET. Mais on pourrait se dire aussi que ça pourrait se faire aussi dans le cas d'autres polymères, comme la nature fait avec la biomasse, ou comme on fait avec la biomasse. Donc un rêve, quelque part, c'est que ce genre de méthodes, ce genre de techniques se développent et qu'on puisse réutiliser facilement le polymère et qu'on adapte le polymère qu'on utilise dans les applications à ce genre de méthode. Donc si je devais formuler un vœu, ce sera que les gens utilisent les polymères de façon raisonnable, qu'ils trouvent beaucoup d'autres applications, mais qu'en même temps, on réfléchit tout de suite à des implications qu'on pourrait avoir dans l'environnement et, disons, les comportements déraisonnables de certaines personnes ou de certaines sociétés. Voilà.
Et Jean-Claude Duplessis, pour l'avenir, votre rêve, quel serait-il ?
Après les beaux rêves de Ludwig Leibler, je vais avoir beaucoup de mal à lancer des rêves très originaux. En fait, un des points, c'est qu'on peut rêver de développer des micro-organismes qui soient capables de dégrader, de manger les plastiques et de les laisser sous une forme qui ne soit pas toxique. Alors, on en connaît des exemples. Vous avez chaque automne, vous avez des feuilles, des arbres qui tombent au sol. Ce sont des polymères et les bactéries se chargent de les transformer en gaz carbonique et de relâcher quelques éléments dans le sol. Bon, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est potentiellement envisageable. Seulement ça, c'est envisageable à la suite de quelques millions ou centaines de millions d'années d'évolution dans notre environnement. Alors, il va falloir essayer d'aller plus vite et c'est certainement une action que nous pouvons souhaiter et rêver qu'elle soit mise en œuvre. L'autre point, c'est qu'il faut que la sensibilisation atteigne l'ensemble du globe. Ce n'est pas parce que les Français feront quelque chose de bien que le problème sera réglé. Et une de nos recommandations que je souhaite, c'est un rêve qui doit pouvoir être atteint, c'est qu'il soit créé un programme de recherche mondial qui permette d'inclure tous les scientifiques qui le souhaiteront de tous les pays du monde, qu'ils échangent par des actions communes, par des colloques, qu'ils fassent avancer la recherche en montrant leurs acquis et en ouvrant la voie à des procédés industriels qui permettront de faire en sorte que les plastiques utilisés ne soient plus des polluants pour notre environnement.
Eh bien, un grand merci Jean-Claude Duplessis et Ludwig Leibler de nous avoir expliqué ce que représentent les plastiques aujourd'hui dans notre environnement. Je rappelle que le rapport de l'Académie des sciences est disponible à tous sur le site internet de l'Académie. Vous pouvez le consulter sans problème, il se lit facilement et il fait une vingtaine de pages. Voilà, un grand merci à chacun et à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Thank you.